7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, cuisiner comme au pays, pourquoi et à quel prix? Tous ceux qui vivent loin de chez eux savent très bien de quoi on parle. Des Congolais en Europe ou des Chinois en Afrique, pourquoi restons-nous tous attachés à certaines racines culinaires? Et surtout, comment trouver les ingrédients pour ces plats, les légumes rares, les herbes, les mélanges d'épices, les fruits qui arrivent par cargo, pas mûrs et très chers? Et justement, question des dépenses. Est-ce que vous avez le sentiment, les voisins et les voisines, de dépenser plus pour cuisiner des plats bien de chez vous? C'est à vous de nous répondre. Vous nous appelez surtout dès maintenant pour témoigner de la façon dont vous vous alimentez loin de vos traditions culinaires. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le serveur WhatsApp pour nous laisser des messages. Alors je vous présente nos invités. Aïda Soumaoro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-malienne, vous travaillez pour la société Racine qui distribue des produits du continent africain et de l'océan Indien, par exemple.
Par exemple, on va distribuer de la poudre de baobab.
Oui, on en a sur la table d'ailleurs.
Exactement.
Il n'y a pas longtemps, c'était introuvable en France.
Exactement.
Difficile. Hein,
ouais, ouais, ouais. Enfin, dans certains réseaux, on va dire, on arrivait à le trouver, mais là, ça se commence à se démocratiser, effectivement.
Et quoi d'autre?
On peut trouver, nous, on va fonctionner avec du fonio également, et de la farine de banane plantain, de patate douce. Voilà. Donc,
il fallait parcourir souvent pas mal de kilomètres si on habitait loin d'une grande ville en France pour trouver ces produits-là il y a encore quelques années. Également avec nous, chef Abogaïs, bonjour.
Bonjour.
De votre vrai nom, Younes Abogaïs Paigbé, vous êtes chef cuisinier aux trois origines.
C'est ça.
Ivoirienne.
Zaïroise, malienne.
Vous ça dites zaïroise, congolaise.
À la place de congolaise.
D'accord,
ouais.
Comme
le
vous
RDC.
Voulez. Vous préparez l'ouverture d'un restaurant haut de gamme de cuisine africaine,
voilà,
à Paris. Vous avez étudié la cuisine en France, Angleterre,
ça.
Et puis bien sûr, il y a vos racines.
Oui.
Également avec nous, Minh Duong Ngo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-vietnamien, vous dirigez une chaîne de supermarchés de produits asiatiques en région parisienne et à Paris. Tan Binh.
C'est cela, oui.
Dans deux arrondissements à Paris et puis à Ivry.
Ivry-sur-Seine.
Le Chinatown, le quartier chinois de Paris, on le précise pour nos auditeurs qui nous écoutent loin de la France. Également en liaison avec nous, Chantal Crène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue spécialiste de l'alimentation des immigrés à Sciences Po Bordeaux au sein du laboratoire Les Afriques dans le Monde. Et vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Gironde. En fin d'émission, l'Afrique qui gagne, portrait aujourd'hui de Laetitia Bellinga, cofondatrice de Sky. C'est une entreprise basée à Abidjan qui développe des services digitalisés, notamment Dabali, qui permet de commander des plats locaux et de se les faire livrer à domicile. Les bons petits plats, finalement, on y revient toujours. Voilà, je vous rappelle notre numéro de téléphone, cuisiner comme au pays. Comment faites-vous, les voisins et les voisines, si vous êtes loin de chez vous? 33 1 84 22 71 71. N'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler. Des messages postés sur nos réseaux sociaux. Seydou à Port-Gentil au Gabon. Je suis sénégalais, je vis au Gabon. J'aime beaucoup cuisiner, mais ici les ingrédients ne sont pas faciles à trouver. Et quand tu les trouves, ils sont trop chers. La viande fraîche est rare. C'est pas comme au Sénégal. Jean de Dieu, il nous dit qu'il est congolais. Il vit en Zambie, dans la région du lac Tanganyika. Je me souviens des feuilles de manioc mélangées à l'huile de noix de palme que ma chère maman prépare. Et ici en Zambie, c'est impossible de trouver ce plat, de le cuisiner. Pourtant, avec le foufou, c'est tellement bon. ça vous rappelle quelques petites savoureuses recettes, chef Abogaïs?
Oui, un peu.
rappelle le foufou, dites-nous ce que c'est, vous qui savez bien.
Le foufou,
bien.
Bah, c'est de la farine de manioc.
Ça peut être aussi voilà, après, à préparer avec de la banane plantain, non?
Oui, en fait, ça dépend. Le foufou au Congo, c'est de la farine, c'est de la poudre, qu'on mélange même avec de la poudre de maïs. Et le foufou en Côte d'Ivoire, c'est de la banane plantain verte, bouillie et écrasée avec de l'huile de palme.
Ouais.
Donc en fait, ça se dit foufou, foufou, mais ça n'a rien à voir en fait.
Et ça vous étonne qu'on ne trouve pas ces feuilles de manioc mélangées avec de l'huile de palme en Zambie?
En Zambie, ça m'étonne. Même, ouais, parce que oui, manioc, Zambie, c'est à côté. Oui, voilà, justement. Donc je suis un peu étonné quand même. Ouais,
mais bon, chacun aussi se dit non, il n'a pas tout à fait le même goût. Pas...
Ouais, c'est possible, c'est vrai, ça dépend.
Sophie, sur Instagram, nous parle du lait traditionnel, le machanza. Qui est un lait fermenté qui ressemble aussi un peu à un fromage blanc qu'on trouve au sud Kivu. Ça vous dit quelque chose?
Pas grand chose du tout là.
En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre aussi sur Instagram. Plus de 1800 et on vous invite à nous y retrouver. Et puis aussi un message d'une voisine à Lomé posté sur WhatsApp.
Bonjour à tous les voisins et à toutes les voisines. Je suis Viviane Madita, j'habite à Lomé, je suis tchadienne, j'étudie à Lomé bien sûr. Au Tchad, nous avons une sauce qu'on appelle la sauce longue. Ça se prépare à base de la liane que je ne trouve pas ici. Je n'ai pas certains ingrédients comme la moutarde à la tchadienne. Il y a aussi la moutarde au Togo, mais ce n'est pas la version que je veux. Donc je fais venir les ingrédients de la sauce longue du pays. Sur place, je peux faire ma pâte parce qu'il y a tout. Il y a tellement de similitudes. À part ça, il y a également les spécialités du Togo que je n'arrive pas à manger. Donc, je suis bien sûr au Togo, mais je mange à la tchadienne parce que j'ai du mal à manger dehors. J'ai du mal à manger au resto. Je peux manger le riz au resto, mais je ne peux pas manger la boule ou bien la pâte au resto. Parce que j'aime pas préparer comme on le fait au Tchad. Donc, merci les voisins et les voisines. À bientôt. Ciao, ciao.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Chantal Crène, vous retrouvez certaines préoccupations des personnes avec qui vous faites vos études dans ces désagréments du dépaysement culinaire?
Oui, tout à fait. Je tenais à préciser que je n'étais pas sociologue, mais anthropologue, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et tout ça pour dire que justement, en tant qu'anthropologue, on est au plus près des pratiques quotidiennes et on voit bien, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, comment finalement cette question de l'alimentation d'origine, c'est un peu un mythe, c'est une reconstruction qui est en fait faite d'imaginaire, de fabrique avec ce qu'on a sous la main. Comme vous dites, certains vont considérer que telle chose n'est pas identique à l'alimentation du pays d'origine, alors que d'autres vont supposer qu'un petit grain d'épices va suffire à donner le goût du pays. Vous voyez, donc ce que je vois en tous les cas, c'est beaucoup de complexité et surtout finalement une espèce de, en fonction des époques et des pays, une forme de construction d'un mythe de la culture d'origine, quoi, et qui est beaucoup plus compliqué en final.
Min Jung-go, vous êtes d'accord avec ça? On se construit aussi des histoires culinaires dans sa tête en fonction de sa propre histoire de migration?
Pour nous, oui, de notre génération.
Oui.
On essaye de faire ça. Mais pour nos enfants, après, je ne sais pas si eux, ils sont moins, peut-être moins exigeants. On peut dire.
Vous êtes d'origine vietnamienne, vous êtes arrivé avec vos parents en 1972 en France. Hein.
C'est ça,
vous aviez quel âge?
18 ans.
18 ans. C'était la guerre du Vietnam.
Oui, c'est ça.
Ce sont vos parents qui ont créé le premier magasin en 1968
à la place Maubert.
Oui. Qui était déjà arrivé avant vous, donc. Hein. Ils vous ont fait venir ensuite.
C'est ça.
Et donc, c'était un magasin de produits vietnamiens ou asiatiques?
Plutôt vietnamien. Plutôt vietnamien, parce que nous, c'est comme d'origine vietnamienne, donc on n'importe que des produits du Vietnam. On achète un petit peu avec la Chine aussi, mais pas beaucoup. Oui. Mais essentiellement, c'est des produits du Vietnam.
Et votre commerce familial, finalement, il a grossi au fur et à mesure de l'exil des Vietnamiens?
Oui, c'est après 1975, les Boat People. Beaucoup de monde arrive en Europe. Il y a les Vietnamiens, il y a les Chinois du Cambodge, il y a les Chinois du Laos aussi. Tout le monde arrive à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a grossi, on a accompagné ce mouvement-là. Et voilà. Et après, il y a les autres concurrents, amis qui arrivent aussi sur la place.
et concurrents et amis, comme vous dites, parce que c'est vrai qu'il y a une offre de produits asiatiques énorme en France aujourd'hui, et pas seulement de restaurants, hein, mais de produits de base pour cuisiner à la maison. Vous vous souvenez, vous, de votre dépaysement culinaire quand vous êtes arrivé en France, de ce qui était le plus difficile à supporter? On entendait cette étudiante tchadienne au Togo qui dit « Je ne peux pas manger la boule au Togo, c'est pas la même ».
Personnellement, moi, non. Parce que j'arrive à manger presque tout. Pour moi, c'est
aujourd'hui?
Non, avant. Même en 72.
Ça ne vous posait pas de problème?
Non, non, ça ne me pose pas de problème. Fromage, lait, tout ça. Le seul problème que j'ai, c'est l'habitude de ne plus faire la sieste entre midi et deux heures. C'est très, très difficile quand je dois suivre des cours à la Sorbonne de français, parce que je dois réapprendre un petit peu le français. Et entre midi et deux heures, c'est impossible d'ouvrir les yeux.
À l'époque, ça, donc.
À l'époque.
Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus vraiment le temps de la faire, la sieste, hein, en tant que chef d'entreprise, non?
Si, je prends quand même un petit peu. Puisque
je peux me permettre d'intervenir
là-dessus. Chantal Fenn, bien sûr, vous êtes avec
nous. Parce que justement, ce que je voulais dire, c'est que je pense que dans nos têtes de Français, on considère que c'est un problème, alors que pour beaucoup de migrants, c'était une découverte culinaire. C'était la possibilité d'avoir accès à une alimentation qui était réservée aux riches dans leur pays, et notamment, je pense au Sénégal, avec cette génération qui est née quasiment quelques années avant l'indépendance, et notamment la découverte de la pomme golden, par exemple, mais souvent revenue dans les récits de vie alimentaire recueilli à Bordeaux ici, le fait de pouvoir venir en France,
oui,
aussi
qui était très cher au Sénégal, hein, la pomme golden qui l'est toujours
réservée, et réservée aux élites, et alors qu'ici finalement ils avaient accès comme tout un chacun à cet aliment qui pour nous est un aliment de base finalement. Et c'est pas seulement ça, sur les récits que j'ai pu recueillir sur la cantine de chez Ford à Blanquefort, dont vous avez dû entendre parler, qui ferme ses portes, où ont travaillé beaucoup d'ouvriers sénégalais que j'ai rencontrés, la cantine incarnait la gastronomie française, l'accès à la cuisine française.
Aïda Soumaoro, vous êtes franco-malienne, vous avez grandi avec quelle cuisine?
Avec les deux cuisines en fait, c'est-à-dire que la semaine, on va dire plutôt une cuisine européenne, voire très française.
Et la cuisine de maman.
La cuisine de maman, exactement. Et le week-end, une cuisine plus festive, plus conviviale, parce qu'elle était très souvent partagée, et c'était plus la cuisine de papa, pour le coup.
Donc des plats
maliens.
Par exemple. Voilà.
Alors, je dis malien en même temps, faut que je fasse attention parce que mon père a appris en fait à cuisiner quand il arrive en France, parce que justement il avait ce désir de retrouver un peu les saveurs du pays. Et on tournait, enfin, moi ce que j'ai bien en mémoire, c'était le mafé, le yassa et le tiboutienne, qui sont finalement des plats un peu plus sénégalais que maliens.
D'accord,
c'est
je
partagé,
comprends.
Hein,
je comprends pourquoi vous marchez sur des œufs.
Oui, voilà, c'est toujours des sujets chez quelqu'un en face qui me traduit du regard.
Sauf que c'était à Poitiers, donc comment on faisait pour trouver les produits?
Waouh! Alors. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, hein, mais dans les années 80, 90, j'ai des souvenirs de mon papa qui montait à Paris, quartier Château-Rouge.
Comme d'habitude.
Voilà, ouais. Et qui partait en voiture le matin, acheter ses 25 kilos de riz cassés trois fois, qu'on s'amusait à trier à la main pour enlever, parce qu'on n'achetait pas forcément le très haut de gamme.
Oui, mais, il n'était donc pas très trié.
Pas très trié, il fallait le trier avant de le cuisiner. Hein. Mais je me souviens
donc,
de
donc quand même, c'était une sacrée démarche. Hein.
C'était,
ah,
oui,
il fallait
c'était
être motivé.
Ouais. Mais en même temps, c'était tellement un rituel que... Et je pense que c'est ce qui... Alors après...
Rituel familial.
C'était un rituel familial et c'était même un rituel culturel, en fait. C'est-à-dire que moi, j'en ai des souvenirs, et je pense que s'il écoute, il va être peut-être surpris, mais j'en ai des souvenirs de quelque chose d'extrêmement ritualisé. C'est-à-dire on allait faire le marché ou on allait acheter les produits. Ensuite, on venait à la maison, on préparait le repas. Ensuite, et tout ça, ça prenait plusieurs jours, en fait.
Alors, en réalité, rien n'obligeait la famille à cela. Donc, c'était vraiment une démarche
culturel, bien
c'était
sûr.
Une démarche, hein.
C'était une démarche. C'était pas une démarche pour survivre, on est bien d'accord.
C'était une démarche, oui, effectivement, c'est pas du tout poursuivi.
Non,
clairement. Je pense que ça rappelle un peu les démarches culturelles en Afrique aussi, hein. Aller au marché, rentrer, cuisiner en famille. Donc je pense que même le faire en dehors de son pays, c'est pas forcément gênant.
Ouais.
Je pense que ça rapporte un peu cet esprit comme si on est chez nous.
Et voilà,
guillemets,
c'est
quoi.
Ça. C'est vraiment, moi j'avais cette impression, moi qui suis métisse, j'avais vraiment cette impression que le week-end, et surtout le dimanche pour le coup, parce que forcément derrière, il invitait tous ses amis maliens, il y avait des étudiants maliens aussi qui venaient à la maison, on avait toujours du monde à la maison le dimanche, ce qui pouvait des fois fatiguer un peu maman.
Oui. et vous, pour vous, Min Jong-go, est-ce que vous avez des souvenirs comme ça de rituels autour de la cuisine et des produits, du fait que à l'époque, quand vos parents ouvrent la première épicerie en 68, l'approvisionnement n'est pas simple.
Surtout en légumes. À cette époque-là, pour avoir tout ce qui est rapporte un petit peu du pays, vous savez qu'à Saint-Livrat-sur-Lot, entre Toulouse et Bordeaux, vous avez les anciens militaires français qui sont rapatriés avec leurs femmes vietnamiennes. Et toute cette communauté-là a planté des épices, des légumes pour fournir Paris. Mmh. Alors, toutes les semaines, ils montent.
Quel type d'épices ?
Il y a l'liseron d'eau, il y a les basiliques, persil et tout ça.
Oui. Bon, basilic persil, c'était une variété particulière,
oui,
le basilic,
oui,
pas le basilic classique.
C'est pas le basilic français.
Ah non. Oui, c'est ça. Et les liserons d'eau, effectivement, on n'est pas coutumier de ça dans les recettes du sud-ouest. C'est étonnant tout de même. Alors aujourd'hui, Min Jong-go, vous avez 4 magasins en région parisienne et à Paris. Et chaque magasin a une clientèle différente.
Oui, tout à fait. Oui, parce que nous, par exemple, dans le 15e, on a plus de clients.
À Paris,
oui. On a plus de clientèle japonaise. On fait beaucoup de produits japonais aussi. Et dans le 5e, à côté de Notre-Dame, c'est plutôt français. Français.
Et clients français qui veulent...
Oui, sur place, les clients du quartier.
Découvrir ou retrouver des saveurs qu'ils ont connues en voyage, en
voyage,
Asie.
Surtout, oui. Et à Ivry, c'est plutôt communauté ethnique. Il y a tous les Vietnamiens, Chinois, du Laos, du Cambodge et tout ça.
Qu'est-ce qui manque vraiment pour cuisiner comme au pays, pour un Vietnamien, pour un Cambodgien?
Maintenant.
Oui, aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Rien?
Rien.
Rien du tout?
Tout.
Aucune excuse?
Oui, tout est acheminé par avion.
Donc, ça veut dire qu'il y a des produits qui peuvent être extrêmement frais?
Oui, très très frais. Tout dépend du cuisinier.
Chantal.
S'il arrive à faire comme au pays ou non.
Ouais. Non, c'est pas faux. Hein. Je pense que même pour nous, c'est pareil. Hein.
Et puis c'est vrai que quand on va faire un tour sur les marchés Sénégal et au Bénin notamment, les produits qu'on retrouve, les produits frais qu'on va retrouver sur les marchés, sont quand même des produits qu'on peut aussi trouver en France assez facilement. Il va y avoir des carottes, des aubergines, voilà. C'est des choses assez faciles à retrouver. Et ce qui va changer, c'est peut-être cet ingrédient mystère qui va faire un petit peu la différence.
Ouais. Alors, c'est pas forcément ce que disent nos auditeurs, hein, quand même, qu'on peut tout reproduire des cuisines africaines partout. Pas forcément le ressenti de nos auditeurs. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Pourquoi et comment cuisiner comme au pays quand on habite loin de chez soi? Appelez-nous, où que vous soyez dans le monde. D'ailleurs, on aimerait bien aussi avoir, pourquoi pas savoir comment font les Chinois sur le continent africain pour cuisiner vraiment comme au pays. Allez, on vous donne la parole dans quelques instants, juste après Ibibio Sound Machine.
Sometimes a bit of
Ibibio Sound Machine chez 7 milliards de voisins sur RFI, le titre très évocateur. Need you to be sweet like sugar. Voilà, effectivement, la douceur, c'est aussi valable. En amour, nous sommes en direct sur RFI. Pourquoi, comment cuisiner comme au pays? Bon nombre d'entre vous, vous êtes concernés si vous habitez loin de vos racines culturelles, culinaires, où que vous soyez en tout cas dans le monde. Vous pouvez nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Sandrine est une Gabonaise au Ghana, à Accra. Bonjour Sandrine.
Bonjour Manuel.
Sandrine, vous avez 20 ans et déjà ça vous manque?
J'ai 28 ans.
Ah pardon, 28. Pardon, moi je vois 20 ans sur mon écran, je suis désolée, c'est ce qu'on m'a donné comme information. En tout cas, vous écoute, vous êtes la bienvenue. Alors, qu'est-ce qui vous manque tant donc à Accra de votre cuisine gabonaise?
Un peu tout, hein, les saveurs, un peu tout, mais on fait avec.
Oui, c'est-à-dire?
Bon, moi, par exemple, en venant au Ghana, j'ai emmené les ingrédients que j'utilise le plus, c'est-à-dire les ingrédients des plats que je préfère. Haricots rouges, odika, pas d'arachide, feuilles de manioc, voilà.
Et vous apportez aussi vos mangues sauvages, vous les faites envoyer ou comment?
Et les mangues sauvages, en fait, c'est l'odika.
Ah, d'accord. Ah, ça, je
voilà, sais. Oui, c'est de l'odika, c'est l'odika que nous avons fait.
Ce sont des petites mangues vertes, hein, c'est ça?
Ce ne sont pas des toutes petites mangues. Elles peuvent devenir jaunes comme orange, mais elles sont toutes petites et on les trouve en forêt.
Oui,
et
oui, c'est ça.
Contrairement à des mangues normales que l'on vend, que l'on trouve un peu partout. Celles-là, ce sont des mangues sauvages que l'on trouve en forêt et on utilise des noyaux pour faire de l'odika ou l'ondok, selon la région dans laquelle vous êtes au Gabon, l'appellation est.
Donc globalement, aujourd'hui, alors, comment vous vous alimentez? Moitié cuisine gabonaise, moitié produit ghanéen? C'est quoi la cuisine que vous faites chez vous?
Bon, la cuisine que je fais chez moi, c'est beaucoup plus la cuisine occidentale et la cuisine gabonaise.
Ah, d'accord.
La cuisine ghanéenne est assez compliquée parce qu'elle est très épicée. Et avec mon estomac, c'est pas facile.
Eh oui, vous n'êtes pas habituée. D'accord.
Il y a un choc, hein, je pense, quand même.
C'est-à-dire?
Entre le Gabon et le Ghana, il y a un très grand choc de culture, quand même. Hein. Les plats sont totalement différents. Totalement différents. Donc, je comprends qu'elle n'est peut-être pas habituée aux saveurs ghanéennes. Après, épicé, il ne faudrait pas confondre épicé et pimenté aussi. On a des épices qui donnent de très grandes saveurs sans forcément être fortes en gorge ou en bouche, quoi. Donc, c'est la petite différence.
Merci Sandrine de nous avoir appelé. Bien sûr, vous continuez de nous téléphoner. Comment cuisiner comme au pays? À quel prix aussi? 33 1 84 22 71 71. Chantal Crène, on le voit bien, on l'entend dans les témoignages. Hein. C'est compliqué. Il y a une sorte de navigation entre les différentes cuisines quand on est loin de chez soi. Vous, pourquoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous-même, en tant qu'anthropologue, vous avez été une déracinée culinaire à certains moments de votre vie, de votre carrière professionnelle?
Tout à fait, mais même de ma vie personnelle, puisque je suis brestoise et que j'habite à Bordeaux, et que ce n'est pas tout à fait la même chose.
Ouais, là, quand même.
Il y a des choses assez étonnantes ici. Oui, c'est vrai, j'ai habité à l'île de la Réunion, au Maroc, au Sénégal. Et c'est vrai que j'ai dû aussi, finalement, intégrer les pratiques alimentaires des pays dans lesquels... j'ai habité. Ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a aussi les moments de la vie qui vont faire varier les pratiques alimentaires quand on est seul et en famille. C'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Quand on est plus âgé aussi, par exemple, je reviens toujours sur les Sénégalais qui sont à la retraite et que j'ai appelé les go-between, qui sont dans Dakar et dans Bordeaux, qui font des allers-retours entre les deux mondes. On voit comment ils s'adaptent et pratiquement comme s'ils créaient un troisième univers qui était ni Dakar ni Bordeaux, mais le leur. Vous voyez ce que je veux dire dans, les, dans ces pratiques alimentaires qui sont faites de va-et-vient, d'hybridation. Mmh. Et on voit bien comment, par exemple, la question du couscous, par exemple, avec les boulettes de mil, ont été transformées par l'apport, par exemple, du maïs à Bordeaux, parce que les boulettes de mil, elles n'étaient pas présentes sur la place bordelaise. Donc, quand on prend l'avion pour faire Dakar, Casablanca, Bordeaux, par exemple, on voit bien que ces Sénégalais-là sont chargés de ces grands sacs. Et quand on arrive au bout, eh bien, pour rallonger, en quelque sorte, on rajoute le maïs. Vous voyez, donc c'est aussi, comment dire, des moments de la vie, c'est aussi écouler les stocks qu'on a pu ramener du pays. C'est aussi du business. Par exemple, à Bordeaux, les Peuls de Bordeaux, l'association des Peuls de Bordeaux avait mis en place un frigo, un camion frigo qui allait à Paris récupérer le poisson. Alors, c'était même pas les Cérémonianka hein, qui allaient chercher le poisson à Paris. Mais ils en ont fait aussi une forme de manière de faire de l'argent, mm-hmm. de faire entreprise sur la place bordelaise. Mm-hmm. Donc, on voit comment l'alimentation, elle est vraiment multifacette. Mm-hmm.
Hein, quand vous dites, Chantal Crène, ça dépend aussi des moments de la vie, quand on est célibataire, enfin seul dans la vie, si les enfants sont partis de la maison, ou quand on est en famille. Sous-entendu, vous semblez dire, Chantal Crène, que quand on est en famille avec des enfants, il y a un enjeu culturel, il y a quelque chose qu'il ne faut mmh. pas laisser perdre à ce moment-là, quelque chose qui se joue autour de l'alimentation. Et si c'est le cas, comment ça s'intègre dans le dilemme intégration et conservation des racines ?
Alors justement, on peut se retrouver avec une double cuisine. Là, je vais prendre l'exemple des Marocains qui habitent entre Saint-Émilion et Bergerac, en plein monde viticole. Et on voit à l'intérieur de ces familles comment la cuisine s'est transformée avec formica. Donc, c'est des gens qui sont arrivés dans les années 80. Vous voyez, et dans le salon, la table basse avec le salon marocain. Et on voit comment les mères jonglent entre la cuisine des enfants qui ont envie d'accéder à la
c'est
cuisine.
C'est un peu de l'afrofusion.
Oui, c'est ça, afrofusion.
et le désir des maris de continuer. Et elles peuvent même... On peut rajouter une troisième dimension, si on veut compliquer les choses, qui a à voir avec la santé, où on peut retrouver une troisième cuisine qui est vapeur, par exemple, s'il y a du diabète, vous voyez, ce genre de problématiques.
Ouais. Donc là, ça devient l'enfer quand même, pour les menus, non ?
Eh bien, ça devient l'enfer, et puis on voit sur qui cela retombe. C'est souvent les femmes hein, qui font ce travail, qui font double, triple cuisine. Hein.
Ça, c'est vrai.
Donc, on voit que c'est compliqué. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans un désir d'intégration, les générations, au moment de l'adolescence, peuvent vouloir absolument tendre vers un modèle assez, je dirais, français ou occidental, par la fast-food, mais aussi comment, par les vacances et le retour des parents avec leur enfants. Alors, on ne peut pas parler de retour pour les enfants, mais des parents qui reviennent passer des vacances au Sénégal, par exemple, ou au Maroc, ils s'aperçoivent comment ils se sont transformés. Et là, il y a des fois des retours, vous voyez, comme des retours qui sont imaginaires, hein, puisque de toute façon, la culture culinaire, elle est fragmentée, elle est réinventée, et dans les allers-retours, elle continue à l'être. Hein. Mais on voit comment là va se jouer, comme vous disiez tout à l'heure, un désir d'appartenance, de remarquer, en quelque sorte, l'appartenance au pays de départ. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, vous le disiez bien, il y a un aspect très culturel, très psychologique, très psychique, mais il y a aussi un aspect très économique avec des nouvelles filières qui se créent en permanence à partir de, parfois d'un système D et puis ensuite des filières très, très formalisées de commerce à travers le monde pour servir une demande qui est toujours là, qui est de retrouver un petit goût du pays. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Thierno nous appelle de Rabat au Maroc. Bonjour Thierno.
Allô, bonjour.
Thierno, vous êtes guinéen, installé au Maroc. Où en êtes-vous dans votre assiette ?
Ah bon, c'est un peu compliqué ici, parce que je ne trouve pas tous les ingrédients pour préparer, surtout en ce moment de mois de Ramadan. Mm-hmm. Parce qu'en Guinée, pendant le Ramadan, les plats sont très variés. Mm-hmm. Il y a des plats qu'on ne mange pas, parce que si ce n'est pas pendant le Ramadan. Et oui. Donc, cela me manque un peu ici au Maroc.
À quoi vous faites allusion ?
Bon, il y a comme la bouillie, le thon, il y a un plat aussi qu'on appelle, par exemple, le kéton. Mm. Donc, tout ça, même si je vais le préparer, il n'y a pas des ingrédients.
Qu'est-ce qui vous manque exactement alors au Maroc ?
Voilà, par exemple, si il y a des sauces pour les préparer, il faut que je me déplace jusqu'à Casablanca, où il y a un marché africain, pour trouver des ingrédients.
Oui. Et ça vous coûte beaucoup plus cher ou pas dans ces cas-là par rapport à si vous l'achetiez dans votre pays, sur le continent subsaharien?
Si, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Non seulement parce que d'ailleurs, il faut payer le transport
jusqu'à Casablanca.
C'est le déplacement.
Voilà, après, les prix sont élevés par rapport à chez. C'est pas la même chose. Parce qu'ils sont importés depuis la Guinée.
Chef Abogaïssé, oui. Vous avez étudié la cuisine en Angleterre, en France. Vous avez d'ailleurs cuisiné des plats africains en Angleterre. Est-ce qu'il y a une différence de prix pour l'approvisionnement?
Une très grande différence. C'est beaucoup moins cher en Angleterre.
Les ingrédients, les produits nécessaires.
Les produits africains sont beaucoup moins chers en Angleterre.
Comme par exemple?
La banane, le gombo.
La banane plantain?
La banane plantain. Je sais que par exemple, c'est l'exemple que je prends tout le temps, la banane plantain en Angleterre, à Londres même, on en prend 5 à 1 pound. En France, on la pèse. Le kilo est à 1,99€, ça dépend. 2,60€, j'ai déjà vu même.
Ouais, c'est pas quel que soit le poids comme en Angleterre.
Donc pour 1€, on a peut-être une bananée encore.
Ouais. Alors que le coût de la vie est plus élevé. L'alimentation, en général, est plus élevée en Angleterre pour les produits de base.
C'est ce que tout le monde dit, mais je pense que c'est l'alimentation française peut-être qui serait plus élevée en Angleterre.
Donc il vaut mieux manger africain en Angleterre.
Manger africain ou manger comme un Anglais. Ouais. Mais je pense que c'est un peu partout
même
pareil.
Les produits asiatiques en Angleterre, c'est beaucoup moins
cher.
Hein.
Moins cher, oui,
je pense que les Anglais, ils marchent beaucoup moins que les Français, que chez nous ici.
C'est-à-dire qu'ils ont su développer des filières d'approvisionnement avec du gros, des grossistes, pour faire baisser les prix.
Je pense que plutôt les importateurs, ils ont moins de marge. Ils travaillent avec des marges plutôt minimes.
Ouais. Donc ça, vous êtes en train de faire passer un petit message, parce que vous, en tant que distributeur, vous êtes étranglé par les marges des importateurs.
Nous, on est importateur aussi.
Vous êtes aussi importateur.
Oui, oui. Mais quand je compare avec les produits que les Anglais vendent là-bas, avec les produits que nous vendons ici, on est plus cher.
Voilà. Ça veut dire qu'on gagne mieux sa vie en tant qu'importateur de produits asiatiques en France, du coup?
En France, oui. Je pense. Oui. Il y a moins de concurrence. Je pense que là-bas, la concurrence est beaucoup plus forte.
Ouais. Ah oui.
Aïda Soumaoro, la société Racine, donc cette entreprise est un peu à l'image des transformations aussi économiques dans l'approvisionnement, oui. dans le positionnement des produits africains, parce qu'autrefois, enfin, et même encore aujourd'hui, mais il y a toute une chaîne d'approvisionnement de produits très basiques. Vous, ce que fait la société Racine, il y a un positionnement très marketing aussi qui s'adresse
Non, c'est pas vraiment un positionnement marketing en fait.
Socio-marketing.
Oui, voilà. Je pense qu'on a plus suivi, une tendance effectivement. Chez Racine, effectivement, on a fait évoluer nos produits. On travaille des produits qui sont emblématiques d'Afrique subsaharienne. Et c'est des produits qui sont extrêmement consommés et que nous avons fait passer depuis quelques années. Effectivement, on a développé une gamme bio.
Donc des farines, de la poudre de baobab, de la fleur d'hibiscus pour les boissons, les tisanes.
On a plus de 125 références en fait de nos catalogues qui sont en bio. Alors là, il y a effectivement le côté c'est bio parce que aussi quand on prend du baobab par exemple, c'est pas des choses qu'on va arroser naturellement de pesticides. Il y a des baobabs.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a besoin d'une certification bio pour de la poudre de baobab?
Alors il y a pas forcément besoin de la certification. Par contre, effectivement, il nous a semblé important de marquer aussi le fait que c'était bio parce que ça nous permet de valoriser aussi les personnes avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, Racite est une société qui distribue également des produits de toute marque, mais qui produit également ses propres produits et qui va valoriser toute cette chaîne de valeur avec ses producteurs.
Donc responsabilité sociale. Hein,
exactement. Vous montrer qu'on a une démarche.
Un business plus social.
Exactement. On l'a pas, en fait, on était dedans depuis
vous
des années.
Vous ne profitez pas des producteurs sur le continent africain pour ensuite...
Non, c'est vraiment pas la démarche qu'on a depuis 30 ans. C'est vraiment travailler main dans la main.
Beaucoup plus cher que si on achetait ces produits-là sur un marché traditionnel.
Alors, sur les références bio, effectivement, on a des produits qui, comparativement, sont plus onéreux que...
Quelle est votre cible, du coup?
Sur les produits bio exclusivement ou sur tous
les
produits? En général, c'est clairement la diaspora. La diaspora africaine, subsaharienne, c'est la cible que nous
avec
avons.
Avec un certain pouvoir d'achat.
Avec, effectivement, un certain pouvoir d'achat. Par contre, sur la gamme bio, on s'est aperçu qu'on avait... alors, par rapport à ce qui se passe sur le marché, effectivement, les produits bio que nous vendons sont quand même pas hors de prix par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce.
Est-ce qu'il y a un changement là qui est en train de se passer sur le plan générationnel, Min Diongo? Est-ce que vos enfants, par exemple, qui sont nés en France, ils veulent bien des produits asiatiques, mais d'une certaine façon, est-ce que vous sentez une évolution ou pas?
Bien sûr, il simplifie un petit peu le goût, en fait. Pour eux, ils ne demandent pas comme nous. Quand ils mangent une soupe, par exemple, une soupe saigonaise, là, pour eux, c'est...
La soupe saigonaise, qu'est-ce qu'il y a dedans?
C'est du pho, il y a du bœuf, il y a du vermicelle, il y a du basilic, soja et tout ça. Donc pour eux, ça va. Ils mangent une soupe comme ça. Un petit peu comme le goût français, si on peut dire.
Sans se poser de questions, sous-entendu, c'est ça. Chef à Bogaïsé, il y a un changement qui s'opère en ce moment du fait d'une mondialisation culinaire aussi pour les jeunes générations.
Très grand changement, mais maintenant, je ne sais pas en fait, il y a un changement de ceux qui ne veulent plus du tout manger africain et ceux qui veulent justement s'imprégner de leur culture. Donc je ne sais pas si
c'est le cas de vos frères et sœurs, par exemple.
Ouais, moi les miens, par exemple, ils mangent les plats africains, mais pas autant que moi. Moi, je peux manger africain tous les jours, moi. Ça ne me dérange pas.
Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de reprendre le flambeau, d'ailleurs?
Je ne sais pas. c'est vraiment la bonne question. Je me dis, je ne sais pas, on peut peut-être valoriser aussi les plats africains. Je pense qu'ils sont très encore méconnus. Voilà, on connaît la base des produits, enfin des plats africains, surtout ouest africains.
On donne la parole à Judith, qui a 5 enfants et qui est originaire de République démocratique du Congo, qui est en région parisienne. Bonjour Judith.
Bonjour Emmanuel Bastier.
Alors vous, qu'est-ce que vous cuisinez maintenant que vous êtes loin de votre pays d'origine?
En fait, moi j'ai la chance, comme j'habite non loin des Châteaux Rouges.
Oui.
En tout cas, je trouve tout ce que j'ai donc besoin pour préparer la nourriture de chez moi.
Ah ça, oui, alors là, oui, c'est facile. Oui.
Et je décidais avec mes enfants, les travails dans la semaine, on mange un peu la nourriture occidentale, mais les week-ends obligatoires, tout le monde chez moi, on prépare la nourriture de chez moi.
Ouais. Donc sous-entendu, des plats qui sont plus longs à préparer, donc tout le monde met la main à la pâte, c'est le cas de le dire.
Oui, j'aimerais bien parce que je ne sais pas s'ils vont épouser une Congolaise ou un Congolais ou un Occidentaux, donc je veux qu'à tout prix qu'ils se mettent dedans.
C'est ça, effectivement. Quand on a transmis les recettes, déjà, c'est une petite assurance culturelle.
Oui.
Merci beaucoup, Judith, de nous avoir appelé.
Si je puis me permettre, il y a quelque chose qu'on défend assez chez Racine. On pense en fait vraiment que c'est pas parce que une personne africaine, en l'occurrence, est en France et qu'elle s'est intégrée, c'est pas pour autant qu'elle doit oublier ses racines, justement. C'est pas pour autant qu'elle doit oublier d'où elle vient. Être intégrée, ça veut pas forcément dire l'acculturation, forcément. On peut très bien, alors je sais qu'il y a des grands débats sur la cuisine fusion, sur le métissage aussi. Aussi, mais tout ça, en fait, ça vient enrichir notre culture française. Ça vient, tout ça, ça vient nourrir un peu ce bouillon. Et c'est aujourd'hui ce qu'on défend, nous aussi, chez Racine.
Min Diongo, est-ce que vous, par exemple, vos enfants vont reprendre la chaîne de supermarché qui a été créée par vos parents, supermarché asiatique, la chaîne Tanbin?
Ils n'ont pas l'intention.
Pour des raisons culinaires ou des raisons de métier de...
Non, plutôt, ils sont tellement confortables dans leur position actuelle qu'ils ne voient pas l'intérêt de reprendre une chaîne comme ça.
Qu'est-ce que vous appelez confortable?
Il y a l'année, il travaille à la caisse de dépôt en tant que fonctionnaire. Et la fille, elle travaille chez Hermès.
Vous semblez triste?
Oui, un petit peu.
Parce que cette histoire de chaîne de supermarchés asiatiques, finalement, qu'est-ce qu'elle raconte de votre famille?
Parce que normalement, nous, on a hérité, les frères et les sœurs, nous avons hérité des parents. Normalement, nos enfants, aux filles, aux sœurs, aux frères aussi, doivent aussi hériter, c'est-à-dire doivent reprendre le flambeau pour aller plus loin encore.
À l'image là, de votre cuisine.
Voilà. Et là, on s'arrête à moi.
Ouais. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr, Chantal Crène, j'allais vous donner le mot de la fin.
Oui, je pense que la modernité a inventé un mode d'hériter qui n'est pas tout à fait le même, puisqu'en fait, l'individu aujourd'hui se donne le droit d'élire son héritage. Et on voit dans votre exemple, c'est tout à fait ça. C'est que finalement, en même temps qu'on a envie de transmettre, en même temps, quand on migre et même tout parent souhaite que ses enfants réussissent par les études, fassent son choix propre. Et on voit bien l'ambiguïté dans laquelle on se trouve aujourd'hui par rapport à toutes ces questions, et qui n'est pas seulement une question de migrants. Hein. Je pense qu'il y a aussi une question qui est partagée par tout un ensemble et qui est plus visible. C'est comme si on mettait une loupe, en fait, sur un phénomène invisible, sinon.
Si ce n'est le choix du métier est lié à la mémoire familiale et à la culture familiale aussi.
Mais je pense qu'il y a d'autres métiers où c'est assez identique. Hein. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit bien comment l'alimentation en migration, elle est un moyen d'intégration, un moyen de faire sa place, de faire son trou quelque part, et qu'ensuite souvent ça se transforme finalement. Et je le vois avec les femmes marocaines d'origine marocaine que j'ai suivies dans le vignoble bordelais, espace territorial patrimonial français s'il en est, où en fait elles deviennent en quelque sorte des chefs marocaines dans le territoire, et elles deviennent en quelque sorte des porte-parole de leurs parents qui ont été ou invisibilisés dans les vignes et qui ont produit notre vin national pendant 30 ans. Et elles deviennent en quelque sorte, de manière distinctive, patrimoniale, les porte-parole en fait, de la cuisine et de la présence de leurs parents.
Oui, c'est une belle histoire ça. Alors vous restez tous avec nous. Je vous propose la dernière partie maintenant de notre émission qui n'est pas tout à fait déconnectée de notre discussion centrale. Comme chaque lundi ou presque, l'Afrique qui gagne, je vous propose maintenant un portrait, le portrait de Laetitia Bellinga. Alors, elle est cofondatrice de Sky, c'est une entreprise digitale qui est basée à Abidjan et qui développe notamment des services digitalisés dans l'alimentation avec Dabali, qui permet de commander des plats locaux et de se les faire livrer à domicile. L'entrepreneuse ivoirienne raconte au micro d'Inès Edel Garcia comment lui est venue cette idée.
Dabali est née d'une expérience personnelle. J'essayais de me rendre dans un restaurant pour pouvoir consommer sur place, chose que je n'ai pas pu faire parce que non seulement il fallait attendre que le plat soit prêt et il n'y avait pas du tout de place assise, donc j'ai dû rebrousser chemin. Mais de manière générale, on a une grosse problématique de transport à Abidjan et souvent même de trouver des places assises entre midi et deux ou à des heures de pointe dans des restaurants. Donc Dabali permet de commander du lieu où on se trouve et de se faire livrer. Donc il suffit de télécharger l'application. Une fois qu'on la lance, on est géolocalisé par l'application, donc on sait exactement où le client se trouve. À ce moment-là, le client il peut passer commande de différents types de plats. Il remplit un formulaire, son nom, son numéro de téléphone. Et à ce moment-là, il valide sa commande. Il peut également effectuer le paiement ou à la livraison ou alors de façon digitale par divers moyens, que ce soit le QR code ou le mobile money.
Quels sont les différents restaurateurs avec lesquels vous travaillez à Abidjan, par exemple ?
Nous travaillons avec tout type de restaurateurs, que ça aille du moyen standing vraiment au restaurant de rue. Pour les plus petits restaurateurs, ce sera de la vendeuse de galettes à celle qui vend de la loco ou même du garba, qui est en fait un plat d'attiéké et de poisson. Aussi du poulet braisé, qu'on voit souvent à tous les coins de rue. C'est des plats communément appelés chez nous des plats de maquis. Ces restaurants-là sont en général majoritairement gérés par des femmes. Donc nous essayons également de mettre en avant ce volet-là en les aidant à faire évoluer leur business.
Et alors, quel accompagnement justement vous leur proposez à ces petits restaurateurs ?
Au-delà de leur offrir une visibilité qu'ils n'avaient pas avant, on leur fournit les barquettes et les sacs de livraison. Donc ça leur permet aussi d'être sensibilisés à l'hygiène et pour plus tard, pourquoi pas, leur permettre de leur propre initiative avoir ce type de conditionnement.
Et les livraisons, elles s'effectuent comment ?
Elles s'effectuent par moto. Pour résoudre les problématiques d'embouteillage à Abidjan, la Banque mondiale a récemment révélé que nous passions plus de 3 heures par jour dans les embouteillages à Abidjan.
Et vous comptez combien d'utilisateurs aujourd'hui sur l'application Dabali à Abidjan ?
Dabali compte environ 200 utilisateurs uniques. Nous sommes en train de regarder les possibilités de nous exporter dans des pays de la sous-région comme le Cameroun, le Bénin, voire le Burkina, qui partagent plus ou moins les mêmes mœurs que nous au niveau de tout ce qui est culinaire.
Quel type de mœurs exactement ?
Le manger dehors qui peut être vu de façon péjorative dans certains pays. Les pays que j'ai cités ont les mêmes habitudes de consommation que les Ivoiriens, donc oui, pourquoi pas nous implanter là-bas.
Développer des applications mobiles quand la couverture internet n'est pas toujours optimale et quand le taux de bancarisation de la population est faible, ça ne doit pas être facile. Alors comment faire pour que ce genre de service ne soit pas juste un marché de niche ?
L'accès à internet était difficile jusqu'ici, mais il y a eu une vraie volonté du gouvernement de faciliter l'accès à internet à toutes les couches de la population. Aujourd'hui, on parle de 2000 francs CFA par mois pour avoir accès à internet. Il y a vraiment une transformation de ce côté-là, dans le sens où l'accès à internet non seulement est plus facile, mais également le réseau est meilleur. En ce qui concerne la bancarisation, c'est vrai que le taux de bancarisation, il est faible en Côte d'Ivoire, mais on a constaté qu'il y a un vrai boom au niveau de la bancarisation mobile. Donc beaucoup de personnes embrassent aujourd'hui cette façon de consommer. On parle de 17 milliards de francs CFA de transactions digitales par jour en Côte d'Ivoire, c'est pas rien. Donc ça montre bien que notre application arrive à répondre à toutes les couches sociales.
Laetitia Bellinga, c'est quoi l'Afrique qui gagne pour vous ?
Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est une Afrique unie, une Afrique battante, qui souhaite évoluer et résoudre ses problématiques sans attendre que la solution vienne de l'extérieur, mais toujours dans la joie de vivre qui nous caractérise si bien.
Chef Abogaï, c'est vous qui préparez l'ouverture d'un restaurant de cuisine africaine à Paris. Le digital et la cuisine,
spécialité,
ça vous parle ?
Ça me parle. Spécialité ivoirienne. On fera des plats africains aussi. Hein. C'est Assini le nom du restaurant.
Ouais. Assini, voilà. Bon, Assini, c'est pas dur à retenir.
Pas dur à retenir. C'est une plage en Côte d'Ivoire.
Exactement,
en fait.
Pas voilà. très loin d'Abidjan. Mais l'aspect digital, l'application pour manger finalement dès qu'on a faim, manger dehors.
Ça me parle, ça me plaît. Ça ressemble un peu à un Uber Eats ici.
Ouais.
Et c'est, mais ça va être super intéressant, je pense. Parce que c'est vrai que, comme elle a dit, l'attente est énorme. Donc pouvoir se faire livrer chez soi et le mode de pour amener la nourriture en moto et tout, c'est super efficace. Donc ouais, je pense que ça va bien marcher. Hein.
Finalement, dans un pays dans un continent comme l'Europe aujourd'hui, où les jeunes ont de plus en plus envie de manger dès qu'ils ressentent la faim, de pouvoir se faire livrer en un clic sur le smartphone, ça correspond assez bien à ce qu'il y avait dans d'autres cultures où on mangeait dehors en Asie. Je pense à vous, Minyongo, hein, où quand, dès qu'on a faim, on descend en bas de chez soi et puis on trouve une bonne soupe.
Oui, on peut trouver. Tout fait dans la rue, en fait, le trottoir.
Au Vietnam, comme en Thaïlande, comme en Cambodge.
Oui, comme dans tous les pays d'Asie.
Oui, oui. Et finalement, ce sont ces deux cultures de l'immédiateté qui se retrouvent. Aïda Soumarou.
Oui, complètement. Et je pense qu'on est tous amenés à y aller, même en ce qui concerne nous sur le fait de faire des courses, l'accessibilité à nos produits. On sait aujourd'hui qu'il y a des gens en plus envelés, par exemple, qui n'ont pas accès du tout à certains de nos produits.
Et qui peuvent commander sur Internet.
Et aujourd'hui, on travaille sur des solutions, justement, pour leur amener ce type de choses.
Après, dans l'assiette, il n'y a pas de mystère. Voilà. Quand on veut un bon petit plat, il faut un peu de temps.
Et se déplacer, c'est un peu mieux. Hein.
Merci en tout cas à vous tous, Aïda Soumarou pour la Société des Racines, chef Abogaïsé, chef cuisinier donc pour Assini qui va ouvrir ses portes à Paris. Et merci à vous, Mindyungo, les supermarchés de produits asiatiques, Tanbin. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des 30 ans de la répression de Tiananmen en Chine. On parlera de la jeunesse chinoise.